Chapitre 13. L'offrande du centaure. Athéna avait raison. La folie et la générosité des hommes se côtoient sans cesse. Dans ses cauchemars, Prométhée a appris maintenant à reconnaître l'aspect sombre et l'aspect lumineux de certains progrès humains. Au même instant, à quelques mètres les uns des autres, il peut voir ce qui égorge et ce qui soigne, ce qui affame et ce qui nourrissent. Il voit aussi des hommes de toute race agir ensemble pour sauver la terre et la foule des femmes se lever pour la paix. Zeus se serait-il trompé ? Pense Prométhée, et il rit. Il est fier des petits humains sans crocs ni griffes, fier de la flamme qu'ils portent en eux, de leur révolte, de leur courage. Il cesse de regretter son don, il cesse de se révolter contre la bêtise humaine, et il pense qu'Espérance a fait du bon travail. Et voici qu'il entend le pâlant d'un cheval. Il écoute attentivement. Le pas n'est pas égal. Le cheval ne pose pas son quatrième sabot aussi franchement que les autres. Ce cheval est blessé. Il y a aussi le pas régulier d'un homme qui marche près de l'animal. Héraclès, si j'avais pu imaginer, mais qui est à tes côtés? Je suis venu avec Chiron le centaure, mon maître vénéré. Le grand centaure aux cheveux blancs, portant arc et carquois en bandoulière, s'avance en boitant. Chiron, je ne peux m'incliner, mais reçois mes salutations respectueuses. Pourquoi as-tu emprunté ces chemins caillouteux, toi qui souffres si terriblement de ta jambe? Je ne savais pas qui venait vers moi, mais j'ai écouté ta souffrance tandis que tu montais. Chaque pas me faisait mal. Eh bien, que devrais-je dire alors? Mon cher Prométhée, tes paroles me soulagent. Je suis heureux d'être à tes côtés. Tu es bien, comme on me l'a dit, sur la voie de la sagesse et de la compassion. Mon bonheur est sans borne, car je vais assister à ta libération et la mienne. Que dis-tu? Que dit-il, Héraclès? Je ne comprends rien. Héraclès se dresse et cache le soleil couchant. Si tu veux aujourd'hui me confier le nom de la femme que Zeus ne doit pas épouser, je te libérerai. Moi seul suis capable de rompre tes chaînes. Zeus m'a donné la permission de le faire. Oui, mais cela ne me dit pas pourquoi Chiron, le meilleur des centaures, le sage, l'enseignant des dieux et des héros, parle de sa libération. Le vieux centaure, au visage crispé par la douleur, pose sur Prométhée un regard plein de douceur. Il dit de sa voix grave, « Tu sais que lors d'un combat contre les Lapithes, Héraclès par mégarde m'a piqué de sa flèche empoisonnée. Oui, je sais cela, et je t'ai admiré de n'avoir pas eu de révolte ni de colère envers Héraclès. Je ne comprenais pas comment tu avais pu te maîtriser et pardonner. Et à présent, tu comprends ? Oui, il me semble. Depuis cet accident, mes souffrances sont atroces. Crois-moi, je ne serais pas montée jusqu'en haut du Caucase si je n'avais pas été sûre d'y trouver la délivrance. » Zeus a décidé que tes souffrances s'arrêteraient le jour où tu lui dévoilerais le nom de la femme qu'il ne doit pas approcher. Mais il exige, pour que tu sois libre, qu'un immortel descende de son plein gré au royaume d'Hadès à ta place. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais ne dis rien, tu as assez souffert, j'ai déjà trop souffert. En acceptant mon don, tu me délivres d'un tourment sans remède. J'ai accompli ma tâche, je ne demande que le repos. Toi seul, si tu décides de livrer ton secret à Zeus, peux me délivrer. Prométhée ferme un instant les yeux, puis « Approche-toi, Héraclès. » Prométhée est impressionné par la musculature d'Héraclès, mais aussi par la profondeur de son regard. Héraclès, dans l'aveuglement de la folie, a commis des crimes affreux qu'il essaie de racheter en exécutant sans cesse des travaux surhumains. Le fils de Zeus s'agenouille près de Prométhée. Le titan lui glisse à l'oreille. « Zeus ne doit pas approcher Tétis. »« Oh là là !» s'exclame Héraclès. « En ce moment même, Zeus et Poséidon rivalise d'astuces pour parvenir à séduire Tétis, la plus douce des Néréides. « Eh bien, dit le centaure, qui a tout compris, nous ferons d'une pierre trois coups. Zeus ne séduira pas Tétis, ainsi il ne provoquera pas la colère de sa femme, Héra, qui se serait vengée à coup sûr sur cette gentille Néréide comme elle s'est vengée sur toi, Héraclès. Enfin, Poséidon et Zeus ne se battront pas. Ainsi la paix régnera dans l'Olympe provisoirement. « Maître, voyez-vous ce qu'ils font sur nous du haut du ciel ?»« Oui. » « Je le vois, » dit calmement le centaure. Il tire de son carquois l'unique flèche d'or qui s'y trouve et vise posément le grand aigle rouge qui plane au-dessus d'eux. La flèche fend l'air en sifflant, la corde vibre encore, tandis que l'aigle, touché au cœur, replie ses ailes, bascule et tombe en tourbillonnant dans le gouffre. Prométhée pousse un grand soupir. Héraclès est ému, il sait qu'il vient d'admirer pour la dernière fois l'adresse parfaite de Chiron. « Maintenant, tu vas briser tes chaînes, Prométhée. » Maintenant, je vais briser tes chaînes, Prométhée. À main nue? Bien sûr. Je suis Héraclès, non? N'ai-je pas déjà rompu à main nue le cou d'un taureau et presque brisé celui de Cerbère, le chien de garde des portes des enfers, sans compter tous les autres? Disant cela, Héraclès glisse ses énormes bras sous les chaînes et les brise d'un coup sec, l'une après l'autre. Prométhée, étourdi, s'assied sur le rocher. Ne descends pas de ton rocher. Par ordre de Zeus, je dois encore accomplir une action. Quelle action, Héraclès? Le héros, de sa main puissante, arrache un anneau scellé dans le rocher. Un morceau de pierre reste attaché à l'anneau. Il resserre un peu l'anneau et le passe au doigt de Prométhée. Que fais-tu? Chiron répond à la place de son élève. Zeus avait dit que tu resterais sans fin accroché à ce rocher. Un dieu ne peut pas se dédire. Tu n'ôteras donc jamais cet anneau qui te rattache au rocher du Caucase. Mais tu vois, mon fils, combien il est léger à présent. En le sentant à ton doigt, tu calmeras ta révolte. Tu apprendras le détachement et tu apprendras aussi à t'attacher. Prométhée a un mouvement de recul. À m'attacher? Oui, t'attacher vraiment à des êtres, par amour, par amitié. Tu lutteras aussi contre les rochers que tu as dans le cœur, dans la tête. Cet anneau t'empêchera d'oublier que nous sommes tous liés. Tu ne décideras plus tout seul. Tu comprends? Oui, je comprends. Héraclès se tourne vers Chiron. Il porte sur son maître un regard plein d'admiration et de pitié. À voix basse, il lui dit « Chiron, mon maître, la nuit arrive. Voici la première étoile, il est temps. » Le centaure s'approche de Prométhée, pose sa main sur la tête du titan. « Je n'aurais pas fait le voyage si je n'avais été sûr que tu avais changé, Prométhée. J'abandonne ici mon immortalité et c'est comme si je te donnais mon âme. Car depuis que tu as accepté ta souffrance, nous nous ressemblons. Je te lègue aussi mon don de guérison. » Tu as compris beaucoup de choses durant ta captivité, mais je sais que si tu es plus calme qu'autrefois, tu n'es pas amoindri, tu n'es pas résigné, tu gardes la liberté de ton esprit, et tu en auras besoin, crois-moi, je te fais confiance. » Disant cela, le centaure ferme les yeux et chancelle, ses jambes plient, mais avant qu'il tombe à terre, il se transforme en une gerbe de lumière qui monte dans le ciel sombre. Héraclès et Prométhée, la gorge serrée, regardent monter le bouquet d'étoiles qui est devenu Chiron. Enfin, son voyage céleste prend fin et Héraclès pointe son doigt vers les nouvelles étoiles disposées dans le ciel. « Regarde, Prométhée, Chiron ne souffre plus, mais il est quand même immortel. Jusqu'à la fin des temps, il sera là, notre archer. Il forme la constellation du Sagittaire. »